Bonjour Odile.
Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous.
Alors Odile, vous êtes éditrice jeunesse et auteure d'une soixantaine de livres et de contes pour enfants. Vous êtes aussi journaliste et rédactrice en chef du magazine Patapon, dont nous allons parler tout à l'heure, et ceci depuis 9 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des éditions Teki?
Oui, les éditions Teki existent depuis plus de 150 ans et présentent des livres de spiritualité, des vies de saints, des livres de prière qui sont historiquement dans la fidélité au Vatican et à la ligne du Saint-Père.
D'accord, merci. Alors, chers auditeurs, je vous propose de commencer avec notre premier livre, donc qui est un livre sur la famille Martin. Voilà, donc on parle à peu près de Sainte-Thérèse à chaque émission sur l'actualité d'actualité des livres. Donc cette fois-ci, un livre pour enfants à partir de 8 ans qui s'appelle « Dans l'intimité de la famille Martin ». Voilà, dans la collection Nos Amis les Saints. Donc, c'est un livre qui est simple, accessible pour les enfants à partir de 8 ans, comme je disais tout à l'heure.
Oui, Anne-Sophie, effectivement, ça parle de Thérèse, mais l'intérêt de ce livre, c'est que ça ne parle pas que de Thérèse. En fait, c'est vraiment intéressant parce que l'auteur Marie Martin, qui a déjà écrit un livre dans la collection Les Sentinelles, donc un peu plus âgé, sur Sainte Thérèse, nous fait entrer vraiment, comme le titre l'indique, dans l'intimité de la famille Martin, c'est-à-dire on les voit vivre tous ensemble, alors que jusqu'à maintenant, on a plutôt des livres sur Léonie, sur Thérèse, sur Louis et Zélie. Là, ils sont regroupés et on voit vraiment leur vie de famille qui nous invite dans leur sainteté qui est tout ordinaire, mais qui en même temps nous emmène sur un chemin de foi extraordinaire, puisque ce qui est incroyable, c'est que les parents sont saints, Sainte Thérèse est sainte et docteur de l'Église depuis longtemps, Léonie prend peut-être aussi le même chemin, et puis Céline, dont on vient de découvrir le journal, a aussi une spiritualité incroyable et un combat par rapport à la pureté que n'avaient pas ses sœurs. Donc vraiment des membres de la famille qui se complètent et qui mettent l'un l'autre la valeur de chacun la sainteté de chacun en valeur. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. C'est un voyage que nous faisons d'Alençon à Lisieux, le Carmel, la Visitation. Nous balayons tous les chemins de chacun des membres de cette sainte famille.
Oui, alors en plus, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ce livre, le premier chapitre s'intitule « Histoire de deux amoureux ». Donc je trouve ça beau, c'est rare de parler de romantisme dans une vie de saint comme ça. J'ai beaucoup aimé le début de ce livre.
Oui, c'est vrai que c'est une famille qui est basée sur l'amour et vraiment l'amour incarné. Alors eux, Louis et Zélie, au tout début, ils avaient cru qu'ils étaient appelés à la chasteté, alors qu'en fait, heureusement, leur confesseur leur a dit « mais non, vous devez avoir des enfants ». Et donc, ils sont vraiment entrés dans une relation d'amour, de tendresse, de fidélité conjugale bien sûr, mais aussi de toute cet amour. Oui, ils étaient vraiment amoureux et c'est ce qu'elle montre, c'est ce que l'auteur montre aussi par exemple en citant des extraits de lettres qui sont vraiment des lettres d'amour qu'échangeaient Louis et Zélie quand Louis par exemple devait se déplacer pour ses voyages professionnels. Zélie lui écrivait des lettres pleines de tendresse, d'impatience de le retrouver, vraiment des lettres d'amoureuses qui nous font plaisir et qui nous font plaisir quand nous les lisons aujourd'hui.
Merci. Alors, et puis à la fin, chers parents, vous trouverez une petite rubrique qui s'intitule « Pour aller plus loin ». Et donc l'auteur conseille aux jeunes lecteurs de visiter la maison natale, les Buissonnets. Alors elle met l'adresse, elle met comment obtenir les informations, les horaires, etc. Et puis, elle lui propose aussi des pistes de lecture autour de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, c'est plutôt bien aussi pour des parents, en tout cas pour l'enfant, de pouvoir avoir ces pistes-là. Voilà, donc, chers auditeurs, nous allons passer sur notre deuxième livre, Les 10 clés du bonheur. Alors, les 10 clés du bonheur qui ont été écrites par donc vous-même, Odile, et puis illustrées par By BM. Donc, c'est un beau livre pour inviter l'enfant à être artisan de son bonheur en 10 points. Voilà, donc avec un texte de vous-même, Odile.
Oui, effectivement, là je mets ma casquette d'auteur tout en étant éditrice de cette collection puisque c'est le quatrième titre de cette collection qui s'intitule Les 10 clés et c'est une collection donc comme son nom l'indique qui veut donner en 10 chapitres 10 réflexions accompagnées de 10 astuces sur un thème particulier. Le tout premier, c'était les bonnes manières qui a lancé la collection. Il y a eu l'écologie chrétienne, il y a eu comment vivre l'absence. Et donc là, c'est le quatrième, en attendant un prochain qui sera sur l'école, les 10 clés pour l'école, pour vivre une bonne journée d'école. Et donc là, les 10 clés du bonheur... moi, j'ai souhaité en fait que ce soit finalement de façon un peu cachée puisque le côté chrétien n'apparaît pas dans la plupart des clés, sauf à la toute fin où je montre que ce qui est ma conviction, que le bonheur véritable nous vient de Dieu. Et, mais voilà, mais le reste des 10 clés, c'est par exemple retrouver le sens de l'effort, avoir des responsabilités, respecter les autres, avoir de bons amis, de bonnes fréquentations. Enfin voilà, tout un ensemble de conseils qui veulent conduire l'enfant au bonheur, mais pas seulement l'enfant, tout le monde. Et en réalité, ce qui est sous-jacent, c'est la sainteté. Comment avancer vers la sainteté, puisque finalement, le bonheur chrétien, c'est la sainteté. On est heureux quand on cherche à s'approcher de Dieu et à avoir une vie la plus sainte possible, c'est-à-dire la plus tournée vers les autres, vers le monde, et non pas centrée sur soi-même.
Mmh. Alors moi, je résiste pas à vous lire un petit passage de la troisième clé pour être heureux qui s'appelle « Être libre rend heureux ». Donc, je vais vous lire juste un petit passage. « Ce peut être une mauvaise habitude dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ce peut être la peur du regard des autres, la peur d'échouer, la peur de vous tromper, la peur de manquer. Ce peut être l'envie d'être à la mode, l'envie d'être admiré, l'envie d'être le meilleur. » L'envie d'avoir toujours plus de jouets. Tous ces liens forment un filet qui empêche la joie d'habiter dans votre cœur et de s'installer dans votre vie. Reconnaissez ces liens un à un dans chaque domaine de votre vie. École, maison, amis, et coupez-les. Voilà, donc j'ai juste pris un petit passage. Et puis ce que j'aime bien à chaque fois, c'est qu'il y a une petite astuce qui est proposée. Voilà, donc là, on propose à l'enfant ou au jeune d'écrire un lien qui l'empêche d'être libre. Sur un ballon de baudruche, par exemple, qu'on attache à son poignet. On le garde pendant une heure et on joue, on le garde pendant son repas, etc. Puis on se rend compte qu'au bout d'un moment, on ne peut plus le supporter. Alors, on coupe la ficelle, on perce le ballon en disant « je ne veux plus de cela dans ma vie ». Voilà, donc je trouve que c'est vraiment très concret. Et une belle manière d'être encore plus heureux. Voilà. Et puis, Odile, bravo en tout cas pour ce beau livre. En plus, les illustrations sont superbes. Et justement, j'aurais aimé que vous me parliez de cette fameuse By BM, voilà, qui est une Instagrammeuse très connue, je crois. Si vous pouvez nous en parler un peu.
Oui, effectivement, l'illustratrice... qui est vraiment très très douée. Alors By BM, ça reprend ses initiales en fait. Je vais pas le dire, hein, mais son prénom commence par B, son nom de famille commence par M, d'où son pseudo. Est une ancienne styliste, donc c'est pour ça que les enfants sont toujours aussi bien habillés et toujours dans des tons très très naturels. naturel, très, y a beaucoup de beige, de bleu clair, de ton pastel. Et vraiment, ça plaît énormément. Et elle a une communauté très vivante sur Instagram, un peu aussi sur Facebook. On peut la retrouver donc bybm, by-bm. Tout simplement. Et vous verrez, c'est très vivant, il y a des vidéos. Donc, elle fait beaucoup de choses. Elle fait des livres avec nous, Édition Teki. Elle fait également des petites cartes Jésus, Marie, des petites cartes de prière, voilà. Et puis, elle fait des articles scolaires, donc des petites valises, des cahiers, des agendas, des trousses, tout dans des tons très joli, très, très doux, et voilà, pour donner envie aux enfants d'aller à l'école, et puis plus loin que ça, je pense, de créer de la beauté autour d'eux, de retrouver le sens du beau, s'éloigner de couleurs qui sont parfois un peu trop criardes, un peu trop dans un mélange pas toujours heureux, et là, vraiment apprendre l'harmonie, le bon goût, la beauté, la délicatesse, en fait une fibre artistique très très pédagogique et qui leur donne des clés finalement pour comprendre dès maintenant l'art, quel que soit leur jeune âge, en fait d'être déjà sensibilité à la beauté, à l'harmonie des couleurs.
Merci beaucoup, Odile. Oui, j'adhère tout à fait. C'est vraiment très, 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 très beau, ces illustrations. Alors, nous allons passer au troisième livre, « Dans le vent des Cyclades » de Colombe de Réal, un roman d'aventure de la collection Défi. Donc, la collection Défi à partir de 11 ans.
Oui, effectivement. Donc, cette collection, on est sur des lecteurs un peu plus âgés. C'est une collection qui ressemble beaucoup, pour les lecteurs qui ont connu cette ancienne collection, aux Signes de piste qui peut-être ont enchanté leur jeunesse comme elle a enchanté la mienne. Et donc, la collection Défi propose des romans d'aventure avec de belles valeurs. Parfois du scoutisme, mais sinon toujours des jeunes en lien avec le sport, l'aventure, le dépassement de soi-même, le goût de l'effort. Donc là, ça se passe sur la mer, dans les îles grecques. Donc les Cyclades, ce sont ces îles grecques magnifiques, blanches sur une mer bleue. Et ce sont trois jeunes qui prennent une année de césure et qui font le tour de la Méditerranée en voilier. Et donc, voilà, ça paraît bien engagé. Et puis un jour, justement, quand ils abordent les Cyclades, ils recueillent un naufragé. Et là, le roman va basculer dans quelque chose de beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieux en lien avec la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation nazie qui s'est faite sur ces îles grecques. Donc, un pan de l'histoire de l'Europe qu'on connaît mal, qu'on connaît bien en France et peut-être aussi en Allemagne ou en Angleterre, mais qu'on ne connaît pas du tout en Grèce, et qui a été très, très dur. Donc on découvre notamment un camp de travail pour les prisonniers qui était extrêmement dur et on se rend compte que finalement étant loin de l'Allemagne, les officiers nazis faisaient un peu ce qu'ils voulaient et notamment ils détournaient le travail de ces prisonniers de guerre pour leur propre intérêt et notamment en faisant construire des villas, des maisons. Donc on voit un des officiers nazis qui fait ça. Et donc à l'époque actuelle où sont nos trois héros, nos trois marins, eh bien on se rend compte que ces camps nazis n'ont pas totalement disparu et ont des répercussions, des conséquences encore aujourd'hui. Et là le roman bascule dans quelque chose de beaucoup plus grave qui est finalement l'esclavage moderne, le mépris de la personne humaine, de la dignité humaine et l'utilisation des autres à son propre intérêt. Donc, heureusement, nos trois héros courageusement vont intervenir pour venir en aide donc à ce naufragé qui est un capitaine d'un bateau dont l'équipage a disparu. Et voilà, ils vont courageusement lui venir en aide, mettre leur bateau à sa disposition et partir à la recherche de l'équipage disparu. Donc voilà, ce sont des pistes, je ne révèle pas du tout la fin, mais ce sont les pistes qui présentent cette aventure vraiment faite de courage, d'héroïsme. Donc on a un parallèle intéressant entre l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, où on voit là aussi des jeunes gens qui se sont engagés avec courage pour la liberté, et puis l'époque actuelle où on voit que des jeunes sont encore prêts aujourd'hui à s'engager pour la liberté, pour sauver d'autres personnes, pour défendre la dignité humaine.
Oui, c'est vrai que c'est un très très beau volume là, avec des belles valeurs d'amitié, de courage, de loyauté, voilà, d'entraide. Donc je crois que tous les livres de la collection des filles sont un peu sur ce, pas sur ce thème, mais en tout cas avec toutes ces valeurs. Je crois que Colombe de Réal, il me semble, a écrit un autre roman d'aventure, et peut-être qu'elle va en sortir d'autres, je ne sais pas.
Oui, certainement, oui. Elle a écrit un roman d'aventure, parce qu'en fait, elle a deux passions, donc la mer, qui est aussi son métier, et la montagne. Et donc, son premier roman s'appelle « L'Avalanche », et ça se passe en montagne. Donc, c'est en lien avec les JO, avec les Jeux Olympiques d'hiver, donc un sport, le ski à très très haut niveau, à travers une jeune fille qui s'appelle Claire, et qui va rencontrer des scouts. Il va y avoir justement des moments un peu dramatiques avec une avalanche, avec toute la pression mise par les compétitions olympiques, et comment elle va traverser un drame, et finalement elle va s'en sortir grâce à l'amitié, grâce au courage de ces jeunes scouts. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle prépare un troisième livre d'aventure où les deux univers vont se croiser. C'est-à-dire que les héros de l'avalanche vont rencontrer les héros de Dans le vent des Cyclades. Alors, ce sera vraiment intéressant, et je pense que si parmi les auditeurs certains ont lu l'avalanche, ils auront très, très envie de découvrir Dans le vent des Cyclades, et puis le prochain livre qui réunira tous les héros qu'on a hâte de retrouver. Tous très attachants, tous très enthousiastes, dynamiques. Enfin, vraiment les enfants, les amis dont on rêve pour nos enfants.
Oui, j'imagine, moi qui ai lu donc Dans le vent des Cyclades, et je me dis que bon, c'est à partir de 11 ans, mais on peut tout à fait lire ce genre de livre à 15 ou 16 ans. C'est tout à fait adapté aussi.
Oui, c'est ça. Mm. En fait, les héros ont 16, 17, 18 ans, suivant les livres, entre 15 et 20, grosso modo. Et effectivement, ce sont vraiment des livres pour adolescents qui veulent les aider à faire les bons choix dans la vie, à faire des choix qui les rendront heureux. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on a aussi de bons lecteurs qui vont attaquer la collection dès 10 ou 11 ans. Donc voilà, on donne quelques indications d'âge, mais vraiment, on peut les lire aussi bien à 20 ans qu'à 12 ans si on est bon lecteur.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, vous écoutez l'actualité des livres en présence d'Odile Aumonté, qui est éditrice aux éditions Teki. Voilà, nous allons continuer notre émission. Donc, le quatrième livre, qui est un livre de la collection Les Sentinelles, Saint-Louis, un roi pour les pauvres, de Catherine Delassa.
Oui, effectivement, la collection Les Sentinelles, donc, qui existe depuis de nombreuses années, qui veut présenter des vies de saints aux jeunes, n'avait pas encore son Saint-Louis, donc Maintenant, c'est chose faite. Et je trouve que ce chant sur les paroles de Sainte Thérèse s'adapte vraiment très, très bien à la vie de Saint Louis, qui n'a pas été facile puisqu'il est devenu roi à 12 ans, c'est-à-dire que son père est mort. Et donc, si jeune, il a eu cette lourde responsabilité du pouvoir de la royauté en France. Et c'est vrai qu'il c'était un roi très chrétien qui voulait vraiment remettre tout à Dieu et se laisser guider par Dieu dans sa tâche. Donc l'auteur insiste un petit peu sur l'enfance parce que de montrer finalement que il était orphelin, que même si sa mère était très présente, et c'était quand même une lourde tâche qui reposait sur lui. Et attaqué de toutes parts, dans une grande solitude, et puis avec de nombreux problèmes à gérer, comme les croisades, et le manque de justice dans le royaume, par rapport au Seigneur, etc. Eh bien, en tout cela, il a vraiment voulu faire en toute chose la volonté de Dieu et être un roi juste, être un roi compatissant, proche du cœur de Dieu. Donc c'est tout cela que nous voyons dans ce sentinelle et pour essayer de rejoindre le plus possible les enfants dans ce qu'ils vivent aujourd'hui, parce que c'est vrai que les vies de saints, c'est pas juste montrer des modèles de perfection, c'est aussi nous rejoindre dans nos blessures, mais aussi dans nos combats, dans nos chutes, dans nos faiblesses. Montrer que les saints ne sont pas parfaits, c'est ça qui nous encourage à marcher vers la sainteté, c'est-à-dire qu'ils se sont servis de leurs faiblesses, de leurs limites, de leurs péchés même parfois, pour avancer vers Dieu et tracer ce chemin de sainteté sur lequel ils nous invitent à venir nous aussi sans attendre d'être parfaits, mais avec la bonne volonté.
Oui, alors c'est vrai qu'on voit dans le livre que Saint Louis prie plusieurs fois par jour, se lève plusieurs fois la nuit pour aller prier. Il se fait construire un tunnel entre ses appartements et la Sainte-Chapelle, qu'il a fait construire aussi lui-même, pour pouvoir aller prier à tout moment de la journée et de la nuit. On voit même que la Sainte-Chapelle, vous êtes sans doute nombreux à l'avoir visitée déjà, il y a deux étages. Il avait même fait le rez-de-chaussée pour le personnel, le personnel du château. Voilà, et puis on voit aussi toute cette épopée au moment où il rachète la couronne d'épines. C'est très très beau, très très bien écrit. Ça donne vraiment envie de suivre un peu le chemin de Saint Louis, en tout cas dans ses prières, sa prière. Voilà. Alors moi, je trouve que cette collection est absolument extraordinaire, la collection Les Sentinelles. Elle est très connue, hein, parce que vous avez édité énormément de vies de saints dans cette collection. Ce sont toutes des histoires qui sont passionnantes. Elle existe depuis combien de temps, cette collection, Odile ?
Elle existe depuis... Attendez, j'ai pas la date.
Pardon, oui, mais c'est peut-être un piège.
Au moins 25 ans.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Oui,
je pense qu'elle existe depuis une vingtaine d'années.
Il y a déjà une soixantaine de titres, presque 70 titres d'ailleurs, dans cette collection qui présente des saints de partout, de toutes les époques, de tous les pays, et qui essaye de les rendre accessibles aux jeunes pour que ce soit vraiment des témoins de la foi et des témoins de la sainteté.
Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup. Donc, nous allons passer au cinquième livre. Alors là, c'est le magazine Patapon. Voilà, donc c'est un magazine jeunesse. Donc, vous êtes la rédactrice en chef, Odile. C'est un mensuel catholique pour enfants à partir de 5 ans.
Oui, c'est ça, effectivement. Donc, ce magazine a été créé en 1976. Donc, il va bientôt avoir 50 ans. Dans 2 ans, on fera une grande fête pour les 50 ans du magazine. Donc, un magazine catholique qui s'adresse vraiment à toute la famille pour faire grandir les enfants dans la foi. Alors avant, on disait de 7 à 77 ans. Maintenant, on dit à partir de 5 ans. Voilà, mais c'est vraiment toute la famille qui est invitée à suivre Jésus. Donc, il y a des rubriques très spirituelles comme l'évangile, un des évangiles du mois qui est raconté et illustré, des cartes prières à découper, la vie d'un saint, et puis il y a d'autres rubriques un peu plus ludiques, un bricolage, un conte, des jeux bien sûr, et puis chaque mois on présente un thème et puis on essaye de montrer un peu toutes les déclinaisons de ce thème. Par exemple, je donne l'exemple du numéro de février sur les métiers. Donc on a une rubrique merveille de la Bible, donc qui présente les métiers dans la Bible, une rubrique plus historique qui présente les métiers anciens qui ont disparu, une autre rubrique qui nous parle des métiers insolites, le conte qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'installe dans un village et puis il essaye d'exercer un métier, et donc c'est très humoristique parce que en fait tous les métiers qu'il essaye d'exercer ne marche pas, donc finalement c'est le hasard qui le conduit à choisir son métier. Donc voilà, des histoires aussi bien amusantes pour rire, pour se changer les idées, pour s'amuser, et puis pour dessiner, bricoler, réfléchir et bien sûr prier.
D'accord, donc en fait Patapon, c'est un petit agneau, voilà, qui est un peu la mascotte du magazine. Donc il suit en fait le lecteur à chaque page, et à la fin il y a une petite BD avec ce petit Patapon qui est vraiment adorable. C'est un petit agneau très joyeux et donc qui suit le lecteur. Moi j'aime beaucoup. Alors je sais pas d'où vient le nom Patapon. Mais je trouve que c'est tout à fait adapté, en tout cas pour des enfants entre 5 et 9 ans, 8 ans, 9 ans.
Oui, c'est ça. Eh bien, en fait, c'est la fondatrice, donc Madame Louise André Delastre, qui était une grand-mère déjà à l'époque et qui était une grande pédagogue qui racontait beaucoup d'histoires pour enfants, qui s'est servie de la chanson « Héron, héron, petite patapon », vous savez, les
détails. D'accord, ah oui.
Patapon, et donc voilà, même si la chanson n'est pas forcément très édifiante et ne finit pas très bien, mais ça fait rien, on va retenir juste le début, et c'est ça qui a donné le nom au petit agneau Patapon, donc la mascotte, comme vous disiez, qui accompagne l'enfant dans sa découverte de la foi et puis de la vie.
Donc voilà, bah écoutez, merci en tout cas, chers parents, si vous voulez abonner votre enfant, n'hésitez pas à l'abonner grâce au site internet des éditions Teki. Voilà, donc dans ce magazine Patapon, justement, nous avons un extrait tous les mois des jumelles d'Hermine Street, voilà, et donc Teki a sorti deux BD, Les jumelles d'Hermine Street de Christine Derceville. Voilà, si vous pouvez nous en parler, Odile.
Oui, effectivement, donc c'est une BD dont deux pages paraissent chaque mois dans le magazine, donc une BD à suivre, c'est-à-dire c'est une histoire complète avec un début et une fin, ce ne sont pas des petits épisodes séparés, et donc dans le premier tome Christine Derceville nous raconte la rencontre de ces jumelles qui vivent à Londres au XVIe siècle avec Saint Thomas More. Donc le chancelier d'Angleterre, et puis un homme remarquable, grand pédagogue, grand penseur, grand théologien, et puis un martyr également. Donc là, bon, dans la BD, on ne voit pas sa mort, mais on voit un peu ses réflexions sur la vie et comment il accompagne par ses pensées de sagesse et de compassion ses petites filles dans leur vie de tous les jours, par exemple par rapport à la justice, par rapport à l'accueil des pauvres, la compassion, donc voilà. Et puis, dans le tome 2, c'est un peu plus centré sur son écrit qui s'appelle « L'Utopie ». Et donc, les petites filles vont trouver une île et faire comme si c'était c'était l'utopie de saint Thomas More. Et donc, on trouvera aussi de larges extraits de ses écrits, mais en même temps, de façon très ludique, très amusante. Par exemple, elles vont devoir faire preuve de courage pour défendre un orphelin dont des hommes s'emparent pour se servir de lui comme esclave. Et donc voilà, ce sont des rencontres avec des paroles de sagesse et puis les aventures très drôles, tout en étant édifiantes, de ces deux petites jumelles, Beryl et Pearl, donc qui vivent à Londres au XVIe siècle avec tout un décor, toute une ambiance magnifiquement rendue par l'illustratrice Cécile Guinemon, qui vraiment a fait un travail pour nous rendre cette époque tout à fait actuelle et vivante sous nos yeux.
Oui, c'est vrai que c'est très beau, très mignon, très frais, voilà. Donc, je vous conseille de lire ça, de faire lire ces BD à vos enfants, chers auditeurs. Alors, moi, je me suis vraiment régalée aussi en lisant ces deux BD-là et j'attends le tome 3 avec impatience. Est-ce qu'il est prévu un tome 3 ?
Il est prévu un tome 3, oui, qui apparaît déjà dans Patapon depuis janvier, et par épisode, et qui vraiment est aussi excellent, peut-être même encore plus palpitant que les deux précédents, parce que ça s'appelle Le Voyage en France, et donc les jumelles ont retrouvé leur papa qui est marin, capitaine d'un navire, et qui va les emmener sur la mer jusqu'en France pour faire des achats de draps, de tissus pour les grandes foires de cette époque. Et donc, c'est palpitant de les voir arriver dans les villes de France, ces deux petites Anglaises. Et puis, il y a beaucoup d'épisodes amusants, beaucoup de suspense, beaucoup de péripéties. Et donc, voilà, je pense que les petits lecteurs actuels sont ravis de découvrir ces nouveaux épisodes inédits. Et puis, à la fin de l'année, enfin début 2025, nous aurons l'album, le tome 3, qui sortira en album comme les autres.
Merci Odile. Alors peut-être que vous reviendrez nous présenter tout ça. En tout cas, un grand merci d'avoir passé tout ce temps avec nous sur les ondes de Radio Maria. Chers auditeurs, c'était notre émission L'actualité des livres. Nous nous retrouvons le mois prochain. Chers auditeurs, c'était notre émission L'actualité des livres avec Odile Aumonté des éditions Teki. Vous pouvez réécouter cette émission hors podcast sur notre application Radio Maria ou sur notre site internet radiomaria.fr. L'actualité des livres.